rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous culture des bibliothèques sur Graphite, l'émission qui chaque mois vous propose une sélection de lectures, de musique et de cinéma pour éveiller votre curiosité et vous donner des idées de découvertes. Aujourd'hui, quatre chroniqueuses vous accompagnent pour vous présenter leur dernier coup de cœur. Jessie nous invitera à prendre le large avec Une bouteille à la mer d'Isabelle Autissier et la bande dessinée J'y vais, mais j'ai peur, journal d'une navigatrice, de Clarisse Kremer et Maud Bénézit, sont des gros coups de cœur pour Jessie. Amy nous entraînera vers les rivages du Pérou en nous faisant découvrir l'univers musical de Susana Baca avec son album Conjuros, avant de nous parler du film Lady Nazca de Damien Dorsaz. Aurore nous tiendra en haleine avec le polar Traqué de Franck Leduc. Et moi, Anne, je vous présenterai deux romans, La correspondante de Virginia Evans, Le berger d'Alep de Stéphanie Pérez et un polar historique pour terminer L'odeur de la sardine de Serge Raffi. De l'évasion, du suspense, de l'émotion et de belles rencontres vous attendent. Le rendez-vous culture des bibliothèques, c'est parti! Alors, je vais commencer avec La correspondante de Virginia Evans. C'est un roman américain, un premier roman, et c'est un condensé d'émotions qui nous cueille dès les premières pages. Au gré de courriers reçus et envoyés, on découvre avec jubilation les aventures de Sibyl, 73 ans, divorcée, au caractère bien trompé, qui a mené une grande carrière juridique au Maryland, et surtout, c'est une épistolière compulsive. Depuis l'âge de 9 ans, elle écrit à sa famille, à ses amis, des connaissances et même aux auteurs qu'elle lit et admire comme John Didion, Anne Pratchett. Des lettres manuscrites, emails maladroits, pages de journal intime. C'est un pari fou à l'heure du tout numérique et pourtant ça fonctionne magnifiquement. Car sous la plume tantôt acerbe, tantôt tendre de Sibyl se dessine toute une vie. Et si les lettres sont l'occasion de partager les petits riens de l'ordinaire, petit à petit, on lui découvre une intimité riche et sensible. Et à cette femme qui se dit elle-même à l'hiver de sa vie, il lui arrive des événements perturbants, voire bouleversants. Elle perd la vue, mais refuse d'en parler. Elle reçoit des lettres anonymes, mystérieuses et troublantes. Et des secrets de famille remontent à la surface. Et elle, qui semblait si sûre d'elle, se révèle infiniment plus fragile et complexe qu'on l'imaginait. Avec ses blessures et contradictions, c'est une femme aux multiples facettes, décrite avec justesse et délicatesse. Le roman se lit comme une enquête intime, où les correspondances se croisent, où les intrigues se nouent, avec une construction remarquable. On rit, on s'émeut, on s'attache irrésistiblement à cet inconnu qui devient familière, page après page. La correspondante, c'est un hommage vibrant à l'écriture, au lien qu'elle tisse, à cette magie d'ouvrir une enveloppe et d'y découvrir un morceau d'humanité. C'est un roman à la fois léger, profond, qui captive et fait du bien. C'est une lecture savoureuse.
Ça donne envie.
Ouais, moi j'adore les romans épistolaires et tout, et c'est vrai que aujourd'hui ouvrir une enveloppe qui soit autre chose qu'une facture, c'est cool, quoi.
Et malheureusement, c'est de plus en plus rare.
Oui, même pour les factures. Oh, quoi.
Alors, moi je vais enchaîner avec On largue les amarres. Alors non, je ne vais pas vous parler de guide de navigation, ni vous expliquer comment faire un nœud marin. Parce que clairement, dans mon cas, ce serait dangereux pour tout le monde. Je vous emmène plutôt du côté de deux bandes dessinées. Deux récits de mères, deux récits de femmes surtout. Et deux livres qui parlent très bien d'une chose qu'on connaît tous, la peur. La peur d'y aller, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se retrouver seule au milieu de l'océan ou simplement au milieu de sa vie. Le premier titre, Une bouteille à la mer. Alors là, forcément, il y a un nom qui arrive tout de suite, Isabelle Autissier. Et je pense qu'on a tous cette image-là, la navigatrice, le vent des globes, le grand large, le courage, le ciré jaune qui résiste à des vagues de 6 étages. Bref, quelqu'un qui semble plus solide mentalement que nous un mardi matin avant l'ouverture des bibliothèques. Et justement, cette BD est intéressante parce qu'elle casse un peu l'image de l'héroïne invincible qu'on a tous. On découvre une femme passionnée, exigeante, libre, mais aussi traversée de doutes. Et surtout, on sent ce rapport très particulier à la mer comme aventure, la mer comme solitude, la mer comme espace où on ne peut plus tricher avec soi-même. Ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas une BD exploit sportif, même si l'exploit est là, clairement. On est davantage dans le récit humain, et ça, je trouve que ça parle aussi aux lecteurs qui ne connaissent rien à la voile, tout comme moi. Parce qu'au fond, il n'est pas seulement question de navigation, il est question de choix de vie. Qu'est-ce qu'on accepte de quitter? Qu'est-ce qu'on gagne en échange? Et pourquoi certaines personnes ressentent ce besoin presque vital de partir? Alors, rassurez-vous, cette chronique ne va pas se terminer par « Et maintenant, chers collègues, vendons tous nos meubles et partons traverser l'Atlantique ». Déjà parce qu'on n'en a pas les moyens, et ensuite parce que personnellement, 2 heures sur un pédalo suffisent à réveiller mes angoisses existentielles. Mais ces récits-là nous rappellent quelque chose d'important. On admire souvent les aventuriers pour leur courage, alors qu'eux-mêmes parlent surtout et avant tout de leur peur. Et ça fait une transition parfaite avec le deuxième titre, qui est mon coup de cœur aussi. « J'y vais mais j'ai peur, journal d'une navigatrice ». Rien que le titre est formidable, presque un résumé sur l'existence humaine. « J'y vais mais j'ai peur ». On pourrait l'utiliser tous les jours. Prendre parole en réunion, pour changer de travail, déclarer ses sentiments ou annoncer qu'on va déplacer le rayon jeunesse et le rayon BD. Bon, là encore, on parle de navigation, mais surtout d'intime. Cette BD est plus personnelle, plus fragile aussi. On suit une femme qui avance malgré l'angoisse, qui doute, qui observe beaucoup et qui raconte très bien cette petite voix intérieure que beaucoup connaissent. Celle qui dit « t'y arriveras pas, tu n'es pas légitime, rentre chez toi et prends un plaid ». Et pourtant, elle y va. Pas comme une héroïne hollywoodienne, pas comme un cavalier épique avec la musique qui va bien derrière. Elle y va en ayant peur, la boule au ventre, et c'est précisément ce qui rend le récit très fort. Parce qu'on est loin du discours de performance qu'on entend partout, le fameux « crois en toi, dépasse tes limites, réveille le leader qui sommeille en toi ». Non, ici on avance avec les tremblements compris dans le voyage. Et je crois que beaucoup de lecteurs peuvent se reconnaître là-dedans. En tous les cas, moi oui. Et ce que j'ai aimé dans ces deux BD, c'est qu'elles se répondent très bien l'une l'autre. D'un côté, une grande navigatrice, une grande figure, de l'autre, une voix plus intime. Mais dans les deux cas, des femmes qui racontent la mer sans mythologie virile, qu'on a toujours l'habitude de voir chez les hommes, sans posture, sans arrogance. Et ça change beaucoup de choses. On n'est pas dans le « regarder comme je suis forte ». On est plutôt dans « j'ai peur, mais j'avance quand même ». Et franchement, c'est peut-être ça le courage. Alors oui, ces deux BD datent de 2025. Mais j'avais très envie de remettre en lumière ces deux livres qui résonnent particulièrement bien aujourd'hui. En ce moment, entre fatigue collective, besoin d'évasion et grandes questions existentielles, je trouve que ces récits de mer tombent exactement au bon moment. Donc si vous aimez les récits de voyage, les autobiographies, les histoires de femmes, la nature, les aventures humaines ou simplement les livres qui donnent envie de voyager, vous pouvez embarquer les yeux fermés dans ces deux BD. Voilà, ouais, c'est un vrai coup de cœur.
Si je puis me permettre, j'ai 3 petites anecdotes justement en lien avec ta présentation. C'est qu'il y a un marin qui m'avait conseillé 2 choses. Il m'avait dit, si tu te sens perdu, suis les étoiles. Si t'as le mal de mer, mets du persil. Enfin, non, après...
Où ça?
En fait, au niveau du torse, il paraît que ça fonctionne assez bien. Ah, mais bon, j'ai pas été suffisante sur la mer. Et en plus, c'est bientôt la fête des mers, donc c'est tout à fait...
Ah oui, le jeu de mots sur le mer. Voilà, donc une chronique tout en humour. Merci.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Mon deuxième roman, mon choix se porte sur le berger d'Alep. Après l'Iran du magnifique gardien de Téhéran et l'Ukraine de la ballerine de Kiev, Stéphanie Pérez nous emmène cette fois en Syrie avec le berger d'Alep. Un roman profondément émouvant qui parle de guerre, mais surtout d'humanité. L'histoire s'ouvre en février 2023. Un violent séisme vient de frapper Alep et au milieu des ruines, une femme, Maya, cherche désespérément son chien, Zatar. Et le récit nous ramène alors en 2016. La guerre civile ravage la Syrie. Maya vit avec son fils Elias dans un immeuble d'Alep. Depuis la mort de son mari, médecin tué sous les bombes, elle s'est enfermée dans le chagrin. Pour tenter de la sauver de cette solitude, Elias adopte et lui offre un chiot abandonné, Zatar, comme le mélange d'épices du Moyen-Orient doux et sucré. Si au départ Maya reste indifférente, elle va progressivement s'attacher à cet animal étonnant, qui semble doué de sentiments, aime la musique et se montre empathique envers tous ceux qu'il rencontre. Et peu à peu, ce chien providentiel représentera bien plus qu'un compagnon. Il va ainsi devenir la mascotte de tout l'immeuble, un point d'ancrage, redonner goût à la vie, à ses habitants, rapprocher les voisins, créer un lien entre eux tous, réunir chrétiens, musulmans, jeunes et anciens. Dans une ville déchirée par les bombardements, marquée par la peur et les tensions, il apporte par sa présence fidèle et instinctive une forme de douceur et réveille chez chacun une part d'humanité que la guerre semblait avoir étouffée. Ne vous attendez pas à un roman historique qui nous expliquerait les enjeux du conflit en Syrie. Ce qui intéresse Stéphanie Pérez, c'est l'impact de la guerre sur les vies ordinaires, ceux qui sombrent, ceux qui continuent malgré la détresse, à chercher un peu de beauté dans leur quotidien. La musique, l'amitié, les liens familiaux, l'attachement et l'entraide deviennent alors des actes de résistance. Oui, le roman est traversé par beaucoup d'émotions, bons sentiments, mais il ne tombe jamais dans la mièvrerie. Et grâce à son expérience de grand reporter, Stéphanie Pérez raconte remarquablement la guerre de l'intérieur, sans pour autant écrire de manière journalistique. D'ailleurs, elle écrit en romancière, et c'est là toute la force du livre. Le berger d'Alep est un roman lumineux, sur ce qui nous maintient debout lorsque tout s'effondre. C'est un livre bouleversant, porté par des personnages inoubliables et par un chien qui, lui, ignore les frontières, les religions et les conflits. C'est une magnifique lecture, profondément humaniste. On va écouter de la musique maintenant avec une chanteuse péruvienne que Amy vous présentera juste après.
Caracum, caracum, caracum de caracunde, qué lindo es el niño señor Sacusé. Caracum, caracum, caracum de caracunde, qué lindo es el niño señor Sacusé. Caracum de caracunde, qué lindo es el niño señor Sacusé. Caracum de caracunde, qué lindo es el niño señor Sacusé.
Torito Pin, hijo de la vaca amor, a ti Torito Pin, hijo de la vaca amor, voy a sacarte una suerte en delante de tu señora, voy a sacarte una suerte en delante de tu señor. No tiene miedo que el toro lo va a matar. El negro no tiene miedo que el toro lo va a matar.
Muchachita, quítate y ay, que el toro te va a matar. Muchachita, quítate y ay, que el toro te va a matar. A mí no me matará, porque ninguna pena. A mí no me matará, mira cómo lo matará.
Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño señor San José.
Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño señor San José.
Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño señor San José.
Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño señor San José.
Levántamelo María, levántamelo José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo María, levántamelo José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré.
Levántamelo María, levántamelo José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du désert péruvien, à la fois, donc, comme vous avez pu l'entendre, musicalement. Et ensuite, je vous présenterai donc, un film, le film Lady Nazca de Damien Dorzaz. Donc là, vous avez pu écouter donc, une grande dame de la musique péruvienne, Susana Baca. Alors, née en 1944 à Chorrillos, près de Lima, cette chanteuse, compositrice et ethnomusicologue est la grande ambassadrice de la musique afro-péruvienne dans le monde. Issue d'une famille de musiciens, elle a grandi entourée de rythmes, de carons et de traditions héritées des descendants d'esclaves africains au Pérou. Avec sa voix envoûtante et ses pieds nus sur scène, Susana Bach a fait découvrir au monde entier cette musique métissée, puissante et pleine d'émotions. Triple lauréate des Latin Grammy, elle a même été ministre de la Culture du Pérou. C'est une artiste que j'apprécie énormément, une artiste lumineuse, engagée et profondément authentique, qui nous rappelle que la musique est mémoire et résistance. Donc j'espère que vous avez apprécié effectivement ce petit voyage musical. Et je vais donc vous présenter le film Lady Nazca de Diamants d'Orsaz en vous proposant déjà la bande-annonce.
Je vous présente Maria. Bonjour. Qui va travailler quelques jours avec nous.
Les ancêtres des Incas, les Nazca, sont certainement la civilisation la plus intéressante.
C'était des grands artistes.
Qu'est-ce que ça peut être?
Peut-être des chemins de procession.
Des lignes aussi droites, aussi précises.
On a perdu notre temps. Allez, on y va?
Je veux voir où elle banque.
Oui, mais vous ne pouvez pas rester toute seule dans le désert, Maria. C'est dangereux, c'est de la folie, hein.
You realize you'll be in the middle of nowhere. You're going out in the sticks.
It's not the sticks. It's a desert.
It's the first time in my life that I feel in the right place somewhere.
Il faut les restaurer. Je vais trouver comment les Nazca construisent ces figures et je vais comprendre pourquoi ils les ont construites.
Oh wow, it's so beautiful.
Je sais comment ça se passe, on ne peut rien faire contre les gens qui ont le pouvoir, encore moins ici au Pérou.
Et non es solo un vestigio de la cultura peruana, es una obra única.
Donc sorti en 2025, ce drame historique nous raconte l'histoire vraie et fascinante de Maria Rich, une jeune enseignante allemande qui arrive au Pérou en 1936. Alors là-bas, elle découvre les mystérieuses lignes de Nazca, ces gigantesques géoglyphes tracés dans le désert il y a plus de 2000 ans et qui ont la particularité de n'être visibles vraiment dans leur ensemble que depuis le ciel. Alors je vous mets au défi de me citer un ou plusieurs géoglyphes de Nazca, mais je pense que...
Non, là, j'ai pas.
C'est chaud. Il y en a un qui ressemble à une sorte de lézard, non?
Oui.
J'en ai eu.
Ouais. On s'arrêtera là, je crois.
On sent la grande voyageuse.
Vous avez le colibri, par exemple.
Un singe aussi, non?
Le singe. Et après, vous avez effectivement...
Je suis en forme,
Une araignée. Enfin, vous avez vraiment tout un ensemble de géoglyphes, effectivement, qui sont très... oui, quand même assez symbolique aussi. Ouais. Donc, vous avez avec Devrim Lagneau dans le rôle principal, Guillaume Gallienne et Olivia Ross. Le film nous plonge dans une aventure à la fois intime, donc spirituelle et écologique. C'est une ode à la passion, à la préservation du patrimoine et à la connexion profonde entre l'humain et la terre. Et c'est un beau voyage visuel et poétique à ne pas manquer. Et vraiment, j'ai appris aussi énormément de... Enfin, j'ai redécouvert aussi vraiment cette histoire. Et puis, pour l'anecdote également, il se trouve qu'en fait, elle pensait que ça pouvait être un calendrier ancien. Et finalement, encore à l'heure d'aujourd'hui, ces géoglyphes restent encore un grand mystère. Donc, on ne sait pas exactement précisément à quoi... quelle était leur fonction. Donc...
Le mystère est entier. En tout cas, la bande-annonce, moi j'aime bien parce que ce genre de bande-annonce où la musique vous met les petits poils, moi j'appelle ça, la musique épique, même si parfois je trouve que c'est un peu surjoué. Là, j'avoue que l'émotion était là, donc merci Amy.
Alors moi, je vais revenir au livre avec un roman policier, L'odeur de la sardine de Serge Raffi.
On prend large aussi avec toi, avec l'odeur de la sardine ou...
Ben, pas trop. Non, vous allez voir, ça raconte une anecdote qui n'est pas maritime du tout, en fait. Alors, ce livre de Serge Raffy s'ouvre sur une intrigue policière classique. L'assassinat sur les quais de Seine d'un ancien commissaire à la réputation sulfureuse, Charles Bayard, 85 ans. Un vieux flic gaulliste, solitaire, un homme de l'ombre qu'on surnommait le fantôme. Aucune piste sérieuse, alors les enquêteurs plongent dans son passé. Et ce passé les propulse au cœur de la grande histoire de la France des années 60, une époque marquée par la guerre d'Algérie et les troubles de l'ère gaulliste. Très vite, on découvre que Bayard travaillait avec un journaliste à la rédaction de ses mémoires. A-t-on voulu faire taire cet homme devenu trop bavard? Toute l'enquête repose sur cette question, tandis que les pistes se multiplient et que la PJ avance à tâtons dans les zones grises de l'histoire française. Mais Serge Raffy signe bien davantage qu'un simple roman policier. L'odeur de la sardine est avant tout un livre sur les mémoires blessées de la guerre d'Algérie, sur ces traumatismes enfouis qui continuent de hanter les consciences. Le titre vient d'ailleurs d'une scène terrible inspirée d'un témoignage réel. Pendant la guerre, un soldat contraint au corps à corps tue un combattant adverse au couteau et au moment de mourir, l'homme laisse échapper une forte odeur de sardine. Le même repas que le soldat avait mangé quelques heures plus tôt. Et dans cet instant de sidération, l'ennemi cesse d'être un ennemi et il devient un homme semblable à lui. Ils avaient mangé la même chose. Et cette révélation brutale tourmentera le personnage toute sa vie. Autour de cette figure centrale gravitent d'autres destins marqués par l'histoire. Une jeune femme qui enquête sur un grand-père disparu après avoir rejoint le FLN, et des anciens de l'OAS, des figures de la pègre parisienne, des hommes de l'ombre liés au réseau gaulliste. Serge Raffy brouille les pistes avec talent et il entraîne son lecteur entre Paris, Bordeaux et l'Algérie dans une atmosphère de roman noir où l'intime et le politique se confondent sans cesse. Et journaliste au Nouvel Obs, Serge Raffy connaît parfaitement les coulisses du pouvoir. Cela donne un récit, une densité très particulière entre roman noir, chronique historique et confidence personnelle. Et ce qui frappe surtout, c'est l'amertume qui traverse le livre. Celle d'une guerre que la France n'a jamais vraiment regardée en face et d'une réconciliation toujours inachevée entre les deux nations. Et surtout, ce roman singulier et passionnant a un atout majeur, un dénouement aussi inattendu que bouleversant. C'est une lecture que je recommande vivement. Et encore un polar.
Et oui, encore un polar. Et oui, oui, oui. Alors, Franck Leduc. Je crois que je vous ai présenté chacun de ses romans dans cette émission du Rendez-vous Culture des Bibliothèques sur Graphite.
On sent que tu adores cet auteur.
Ouais, on va en parler. Donc voilà, son dernier roman, publié aux éditions Belf en Noir, ne va donc pas y échapper. Hein. Dans ce nouvel ouvrage, Traqué, on retrouve l'héroïne du roman précédent, Duel, à savoir Talia Sorel. Avec cette histoire de bus d'enfants kidnappés, la négociatrice du raid a pris du galon. Et elle cumule aujourd'hui sa fonction avec celle de commandante d'une unité d'élite opérationnelle. Rien que ça. Un poste qui est envié sans détour par certains de ses collaborateurs masculins. Sans cesse épiée et mise à l'index à la moindre erreur, Talia n'en démord pas moins de ses méthodes habituelles qui sont souvent cavalières. Alors, quand Simon Kepel, prisonnier depuis 10 ans et voué à la perpétuité, s'évade de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu en région parisienne, c'est à elle qu'on confie le dossier. Alors pas parce qu'il est spécialement dangereux, ni même parce qu'il serait spécialement malin, mais parce qu'il y a 10 ans, son procès l'a condamné pour le meurtre d'une actrice très célèbre, Elena Attias. Si l'affaire a été surmédiatisée à l'époque, nul doute que son escapade d'aujourd'hui va faire des vagues. Tout le gratin compte alors sur Talia pour remettre ce fugitif derrière les barreaux, et illico, hein, s'il vous plaît. A priori, sans ressources ni aide particulière, Simon Kepel ne devrait pas tenir longtemps dehors par ce froid de décembre. Pourtant, les jours passent et sa traque devient une affaire d'État. Talia va devoir réfléchir au-delà des schémas habituels, voire plus loin que ce que la presse a bien voulu dépeindre de son évadé au fil des ans, pour comprendre ce qui motive à ce point cet homme à lui glisser entre les doigts. Voilà pour le pitch. Mais au-delà de l'histoire elle-même, j'apprécie au plus haut point la plume de Franck Leduc, t'avais raison Anne. En vrai, je lis peu de polar ou de thriller, mais avec lui, c'est pas pareil. Parce qu'il sait nous embarquer dans l'histoire en quelques pages, avec une simplicité déconcertante. Sans même s'en rendre compte, je tourne les pages encore et encore. Ah, son secret ? Si seulement je le savais. Mais je dirais qu'il manie le rythme de manière à nous rendre addicts. Tantôt sous le feu des projecteurs de la traque, tantôt dans les souvenirs de cet homme pour le moins banal et de ce qui l'a amené à commettre le plus odieux des crimes. On se délecte de chaque passage où, 10 ans plus tôt, il est en compagnie de cette starlette de cinéma. Alors qu'on croit tenir quelque chose, nous, pauvres lecteurs naïfs, eh bien Franck le Duc arrive à point nommé pour semer le doute où il n'y en avait pas jusqu'ici. C'est un maître de la manipulation. Son écriture est fluide. C'est presque qu'on lirait son thriller comme un feel-good s'il ne tentait pas de nous retourner le cerveau toutes les 2 minutes. On s'attache à l'un des personnages, puis à l'autre, sans plus savoir lequel on veut voir triompher. Alors oui, c'est un page-turner, mais il n'y a aucun mal à ça quand c'est si bien maîtrisé. Traqué, de Franck le Duc, c'est un roman pour tous ceux qui aiment les histoires palpitantes, tout simplement.
Mais ça donne trop envie.
Elle l'a bien vendu. Hein,
ah oui. Ah oui.
Moi, je suis pas très polar, mais j'avoue que ça donne bien envie d'une histoire.
Est-ce qu'il faut avoir lu Duel avant pour faire connaissance avec l'héroïne?
Non, du tout.
Pas la peine.
Du tout. Mmh. Il le dit très rapidement qu'elle a fait ça. Il y a un petit clin d'œil à Duel avant. Donc non, non, pas du tout.
Mmh, ben super.
Mais tu peux lire Duel aussi. Hein.
Ouais. Ça ne saurait tarder. Et bien, il est maintenant temps de vous annoncer les prochains événements de la bibliothèque. À partir du 23 mai, l'exposition Entrée dans le jeu vous invite dans les coulisses de la création de notre tout nouveau jeu de société.
Qui est toujours en cours d'impression, mais on va l'avoir très très bientôt et on a vraiment vraiment hâte. Bon, par contre, si on veut jouer, il y a Arcanjeu qui arrive en attendant.
Oui, voilà. Bah, j'y viens. Samedi, non, les 6 et 7 juin, nous avons la joie de vous accueillir pour la 5e édition d'Arcanjeu.
Et oui, et ça commence un peu avant parce que n'oublions pas qu'il y a quand même 7 villes de l'art qui participent et ça commence dès ce week-end. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'agglomération de Compiègne ou de Compiègne-Pierrefonds et vous aurez toutes les infos sur tous les villages qui participent et qui sont partenaires.
Alors le principe, c'est venez jouer, vous amuser, découvrir des jeux ou trouver des partenaires pour jouer à des jeux que vous connaissez. Tout est possible, c'est pour passer un moment ludique en famille, seul ou entre amis.
Qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous expliquer aussi,
ouais.
Découvrir des nouveaux jeux, c'est très cool. Hein.
Ouais. Moi, je sais qu'on va se retrouver toutes les 4, déjà.
Ah, ça, on adore les jeux. Et le samedi 30 mai à 14h30, vous pourrez assister à une conférence des espaces cyberbases sur la reprise du contrôle de son attention à l'ère du numérique. Animée par Xavier Delanguaigne, cette conférence explorera la manière dont l'économie numérique capte notre attention et fragilise notre capacité de concentration. Elle analysera les effets de cette dispersion sur notre performance, notre créativité et notre bien-être. Notre prochain apéro culture à la bibliothèque Saint-Corneille sera le samedi 30 mai à partir de 11h. Venez si vous voulez avoir plein d'idées de lecture et partager vos lectures aussi. C'est un moment très convivial et très sympa. Notre prochaine émission sur Graphite le vendredi 19 juin à 18h. Passez un très très bon week-end.